Comme tous les mardis, Xavier Delaporte. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia.
Avec
bonjour à tous.
Sa fenêtre numérique, la fenêtre de la porte. C'est le rendez-vous du mardi. Elle s'ouvre sur quoi ce matin, Xavier ?
Eh bien, elle s'ouvre sur ce qui s'est passé samedi. En voyant des gilets jaunes s'attaquer physiquement à des journalistes de LCI, j'ai eu l'impression d'assister à un nouvel épisode d'une histoire triste, celle des rapports entre les médias et Internet en France. Avec une question, comment en est-on arrivé là ? Alors, remontons un peu en arrière. On est en 2005, la France se prépare au référendum sur le traité constitutionnel européen. La plupart des grands médias font campagne pour le oui. C'est sur des blogs et des sites personnels que se mobilise et s'argumente une opposition qui, contre toute attente, a fini par l'emporter. Internet a gagné contre la presse, qui est allée dans le sens d'une grande majorité de la classe politique et n'a pas su saisir les aspirations du peuple. Je caricature, évidemment, mais c'est le début du schisme. Or, il se trouve que dans cette période, exactement, naît ce qu'on appelle le web 2.0, celui de la possibilité offerte à tous d'écrire. Et ce nouvel Internet apparaît donc paré d'une grande vertu. Il sera le lieu de la parole libre, de la parole vraie et démocratique contre les médias traditionnels considérés comme inféodés au marché, au pouvoir et à l'audience. Au fond, on n'est toujours pas sorti de cette dichotomie. Tout ce qu'on peut lire ou entendre sur les pages des Gilets jaunes ne cesse de le rappeler, c'est Internet contre les médias. Rien ne sert de dire que c'est plus compliqué, que les frontières sont poreuses, que la presse se nourrit aussi de ce qui se passe dans les réseaux et que les Gilets jaunes sont aussi des téléspectateurs comme les autres. Les représentations l'emportent toujours sur les faits. Certes, il y a eu des tentatives pour réduire cet écart. Souvenez-vous, 2007, ces sites d'information qui se sont créés avec l'ambition que les journalistes et les lecteurs y travaillent main dans la main pour fabriquer l'information ensemble. Sauf que ces tentatives sont restées marginales et que 12 ans plus tard, il n'en reste pas grand-chose. Même les commentaires sous les articles sont en train de disparaître. Chacun a repris sa place, journaliste d'un côté, lecteur, auditeur et téléspectateur de l'autre. La faute à qui, je ne sais pas, mais un espoir a été déçu. Et un espoir déçu, c'est pire qu'un espoir qui n'a jamais existé. Et puis, à la fin des années 2000, les réseaux sociaux se sont imposés et ont offert un espace d'expression à cette parole que les journalistes n'ont pas su capter ou alors que les gens n'ont pas voulu leur donner. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, tant ces entreprises sont au fond peu soucieuses des gens, Facebook et consorts ont récupéré cet idéal de la parole libre, ouverte et démocratique. Ils l'ont fait prospérer avec leurs algorithmes, ils en ont tiré profit. Ils ont offert à n'importe quelle mobilisation la capacité inédite d'organiser sa documentation et sa communication. Ils sont devenus le lieu de la critique des médias, de la plus construite et informée à la plus insultante et délirante. Et ce que nous avons vu samedi, c'est en quelque sorte la traduction physique, in real life, comme dirait Redouane Tella, de cette histoire. Le risque que je vois poindre est que chacun s'arc-boute sur ses positions et que le fossé se creuse encore. Alors comment y remédier ? Ben je sais pas vraiment. Peut-être en finir pour commencer avec deux illusions. Celle que les médias donnent de considérer toute critique comme infondée, alors même qu'à l'intérieur, vous en rendez compte chaque jour, ils sont travaillés par les questionnements et par les doutes. Et en finir aussi avec l'illusion véhiculée par les réseaux qu'ils peuvent se passer des médias, ce serait peut-être un bon début.
Un bon début, mais on va continuer. Le combat et la réflexion. Merci Xavier. À réécouter la fenêtre sur franceinter.fr.